C'est bon, ça marche là. Et puis donc je vais. Faire je vais
la. Elle attend pas moi des histoires.
Je vais l'appeler alors.
Ouais, ouais, ah ben. Tu vas maintenant juste ajouter dans la conversation.
Ouais, je vais l'ajouter dans la conversation. On se présente et puis après, je vais lui dire ce dont on a besoin, des histoires anonymes. Et puis on va voir. Donc je compte sur toi pour poser des questions parce que là maintenant je suis complètement vide.
Oui, au fur et à mesure on va voir. Normalement c'est toi qui parles le plus. T'as toujours des questions. T'as plein de choses à raconter.
Ouais. Bon, allez, j'appelle, c'est l'heure. Ajouter des participants. Je vais vers lui. Il a comment est-ce qu'on dit, un truc Skype qui est complètement bizarre parce qu'il s'appelle Giulio, mais son Skype c'est Pierre, je sais pas quoi. Pierre et Gilles. Bon, voilà, je prends, ajouter. Ah, je pense que ça sonne déjà chez lui là. Je vois. Est-ce que tu vois son
Ah, je vois.
Ouais. Youhou.
Ouais.
Allô.
Oui, je vois bien.
Ça va?
Ouais.
Vous m'entendez?
Ouais. Alors j'entends.
Ouais, ça.
Giulio, ça va?
Oui.
Oui, ça va.
Est-ce qu'on s'entend tous? Ouais.
Moi, j'entends.
Ok. Alors, pour commencer, c'est moi, Andrea. Ok, là, je suis toujours.
Ouais.
C'est moi. Et puis, Ludmila, elle est habillée en rouge. Et puis, j'aimerais te demander si on peut. J'ai un attel là. Si je peux enregistrer la discussion, parce qu'après on peut réécouter pour voir ce qu'on a oublié, et puis comment utiliser les cas, etc., etc. Est-ce que ça te gêne si on enregistre ?
Non, mais je crois que tu peux même le faire sur ton ordinateur. Mais...
Oula !
Je crois que tu peux enregistrer tout le film en fait. Mais je ne sais pas vraiment comment faire.
Ouais. Moi non plus.
C'est pas quelque chose de supplémentaire qu'on doit installer pour le Skype pour pouvoir enregistrer.
Ouais.
Je sais pas si ça fonctionne déjà un peu parce que moi j'ai lu une fois j'ai voulu faire la même chose, mais j'ai lu qu'il fallait télécharger pour Skype quelque chose un truc pour puisse enregistrer.
D'accord, mais tu peux enregistrer ça peut-être.
Ouais. Bon, donc c'est là et puis ça va rester de toute façon confidentiel. Alors j'aime présenter et puis en même temps j'ai parlé de notre projet pour que tu saches un peu ce que c'est. Donc je m'appelle Andrea Farias, je suis brésilienne d'origine en Suisse depuis 30 ans, j'ai 54 ans. J'ai travaillé avec Sandrine il y a, je sais pas, 25 ans en arrière au centre social de Châtelaine. J'étais secrétaire sociale à l'époque et puis elle était assistante sociale. Et puis, depuis, je suis encore secrétaire, j'ai un tout petit poste de secrétariat de 10%. Et puis, le reste du temps, je suis formatrice d'adultes en bureautique, Word, Excel, etc. Et je fais ce master sur, disons comme ça, la pédagogie par la technologie, pour résumer un peu e-learning, etc. Et puis, on a cette matière pour laquelle on doit faire un jeu. Et puis, il y avait plusieurs thèmes. Et puis c'était presque un tirage au sort, disons comme ça. Et puis on a eu, notre thème était la migration. Et puis à Genève c'est mieux parce que comme on habite tous les trois, nous sommes trois personnes. Clément qui est le troisième ne pourra pas venir aujourd'hui parce qu'il est occupé. Mais donc on a voté, on a essayé de prendre le thème de migration. Parce que j'étais moi-même migrante, Ludmila aussi, elle va raconter son histoire. Et puis ce qu'il nous faut en fait, c'est d'avoir des petites histoires des gens qui te consulte par exemple comme assistant social, du style cette personne elle vient de tel milieu, elle a ça et ça comme problème, ce qu'on lui donne comme solution est ci ou ça, et puis après, elle résout le problème. C'est un peu une petite histoire, début, milieu et fin, avec des personnes qui sont des clients, des consultants. Mais donc là, c'est juste pour te dire ce que c'est notre travail. On va devoir faire un jeu, c'est-à-dire que un jeu par ordinateur. Il y a des programmes avec lesquels on peut faire des jeux. Et puis, il y aura peut-être un personnage ou deux ou trois ou quatre. Et puis, ces personnages vont éventuellement aller voir l'assistant social ou bien ils vont aller dans la rue pour chercher un logement et puis comment faire pour qu'ils trouvent un logement, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir des données pour qu'on puisse remplir le rôle des personnages ou du personnage qu'on va créer dans le jeu. Donc, c'est jouer vraiment, hein, avec les flèches, avec Enter, avec la souris, etc. Donc là, moi, c'est moi, je me suis présentée, Ludmila.
Ouais, alors t'as déjà dit beaucoup de choses. Alors moi aussi, je fais le même master qu'en DEA. Avant, je fais le master en relations internationales. C'est pour ça que j'étais intéressée pour ces sujets-là. Et ouais, le but, c'était créer le jeu pour faciliter l'intégration des migrants dans la vie sociale de la ville. Donc, à cette date-là, on doit collecter plein d'histoires pour présenter à notre commanditaire et après, on va se concentrer sur un sujet. Je ne sais pas si on va intégrer plusieurs histoires, si on va choisir une seule histoire et créer le jeu. Ouais. Oui, maintenant, on prend les contacts avec plusieurs personnes qui travaillent avec les migrants. On va voir ce que ça donne.
Ouais. Et toi, Giulio, qui es-tu?
Alors, moi je travaille à l'Office général depuis 10 ans maintenant. J'ai commencé en 2006 en tant qu'assistant social. Et depuis 6 ans, je fais le même métier que Sandrine, c'est-à-dire je forme les nouveaux qui sont engagés à l'Office général. Donc sur le terrain directement à leur poste de travail.
Ok.
Donc voilà.
Alors, tu as plus d'expérience dans l'action sociale, tu as plus d'expérience dans l'action sociale ou avec les réfugiés?
Alors moi j'ai plus d'expérience à l'action sociale, mais j'ai travaillé pendant ma formation avec les réfugiés statutaires qui donc, ont obtenu le droit d'asile et
Ok.
obtiennent l'aide sociale en tant que réfugiés statutaires.
Ouais, ok.
Et après, j'ai quelques connaissances du parcours avant migratoire, mais par le biais de l'asile. Et puis après, les connaissances par le biais de la migration standard, bah, j'en ai parce que j'ai rencontré des gens qui ont vécu ça.
Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence à poser des questions. Je sais pas.
Bah, posez-moi un peu des questions de ce que vous aimeriez savoir. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que vous avez vues qui sont floues pour vous, enfin, en termes d'informations sociales, de démarches que les gens doivent faire? Est-ce que vous avez déjà des hypothèses?
Alors, pour l'instant, on a. Donc pour l'instant, ce qu'on voulait, c'est de récolter. On n'a pas encore d'hypothèse. À part qu'on a nos expériences à nous. Je suis migrante, Ludmila aussi. Donc on sait plus ou moins ce qu'on a vécu, etc. Mais chacune a vécu une expérience différente. Et puis, ce qu'il nous faudrait, en fait, c'est comme du style que tu puisses nous raconter l'histoire d'une personne quelconque que tu as connue dans ton travail. Et qui est arrivée en Suisse, quels étaient les problèmes qu'elle avait en arrivant en Suisse? Par exemple, on commence par ça. Quels sont les problèmes?
Peut-être plusieurs. En fait,
Ouais.
s'il y avait plusieurs histoires qui se ressemblent,
Oui.
peut-être pour avoir un problème commun, peut-être qui ne se concerne pas une seule personne, mais s'il y a beaucoup d'histoires qui se ressemblent, il y a beaucoup de gens qui viennent avec les mêmes problèmes.
OK.
Alors, je pense que je pourrais plus répondre de cette manière-là, c'est-à-dire en synthétisant des problématiques, plutôt que de raconter des histoires isolées, parce que c'est tellement parfois lié à l'histoire personnelle de la personne que c'est un petit peu difficile d'en tirer des conclusions.
D'accord.
Vous avez plutôt les mêmes demandes.
Ouais. Donc.
Alors, ce qui se passe, alors il y a déjà, de ce que je vois, c'est il y a des gens qui arrivent avec un permis et d'autres qui arrivent sans permis.
Ok.
Et ça, c'est une grosse problématique qui peut arriver, et notamment pour les personnes qui sont en dehors de la communauté européenne.
Donc, ouais.
Ça, c'est déjà une difficulté, c'est d'obtenir un permis. En sachant que si tu arrives à Genève sans permis, tu n'as le droit à rien en termes d'aide sociale.
Ouais, mais il a quand même encore le droit de passage ou un truc comme ça, ou il n'y a plus du tout ça?
Le droit de passage, je
connais. Il y avait à l'époque où j'étais à l'hôpital général, il y avait un passant, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle.
Ah, un faux passant.
Ouais, faux passant, ouais.
Okay, oui, alors il y a toujours une aide financière pour autant qu'on prenne contact avec l'ambassade du pays de la personne et que cette personne elle souhaite retourner chez elle. Si la personne elle souhaite s'établir à Genève, elle est considérée comme clandestine et on n'aide pas les personnes clandestines.
Ok, d'accord.
Donc ce fonds-là n'est pas destiné aux personnes clandestines. Donc déjà, ça crée deux catégories de personnes. Celles qu'on rencontre le plus dans mon travail, celles que je rencontre le plus, c'est les personnes avec un permis de séjour,
ouais,
ou un permis de séjour qui est en cours de renouvellement, ou également une personne qui a obtenu un permis de séjour dans un autre canton et qui souhaite déménager de canton.
Ok.
Pour les personnes qui n'ont pas de droit de séjour, il y a quand même une association qui existe à Genève, qui s'appelle le Centre Contact Suisse Immigrée,
ouais,
et qui aide les personnes clandestines, et notamment la scolarisation et la couverture au niveau de la santé des enfants de personnes clandestines.
Ok.
Puisque l'école est obligatoire pour tous, y compris les enfants clandestins.
Ok.
Ensuite, une fois que tu as le problème permis qui est résolu, il y a plusieurs choses. Alors, il y a des gens déjà qui ont des difficultés, et la majorité, je dirais, même des gens qui ont une formation acquise, etc., donc qui ont déjà un certain niveau, la principale difficulté générale à tous, je dirais que c'est le problème de se construire un réseau et des activités à Genève.
Ok.
Donc ça, c'est, je trouve, qu'il y a beaucoup de choses qui existent à Genève pour ce genre d'activité. Par contre, les gens ont du mal à y faire appel.
Ouais. Mais elles ont du mal ou elles ne connaissent pas?
Problème. Alors, soit elles ne connaissent pas, mais même une fois qu'elles connaissent, elles ne savent pas comment s'y prendre pour se créer un réseau social. Parce que souvent, le réseau social que tu vois chez les personnes, c'est à travers le travail,
ouais,
à travers la famille, à travers les amis. Et au-delà de ça, les personnes, si elles sont en situation d'avoir perdu un travail, elles perdent une très grosse partie, voire la totalité de leur réseau social.
Exact.
Ou alors, du fait de manquer d'argent, elles n'ont plus d'activité qui était style, ben, avant je travaillais dans une banque, je vais au golf. Maintenant, je ne peux plus aller au golf.
Ouais, ouais, ouais,
donc,
ok.
Je fréquenter les mêmes personnes et elles ont beaucoup de mal à déjà à avoir connaissance et aller vers des activités qui ne coûtent rien. Du style, par exemple, il y a dans pas mal de communes à Genève des systèmes d'échange locaux qui se sont créés. Alors, prioritairement, c'est des systèmes d'échange locaux au niveau des habits. Les
okay.
gens partagent les anciens habits, font des échanges, etc. Mais ça peut être aussi un échange de services.
Ouais, ok.
Une des choses qu'on conseille très souvent, que je conseille très souvent, c'est pour valoriser la personne dans ce qu'elle sait faire, de proposer des services dans lesquels elle ne va pas obtenir de l'argent en échange. Mais par exemple, à Genève, ça s'appelle les sels du lac. Sels comme le sel, hein.
Comme le sel
SEL. Attends, je vais t'écrire. c'est une abréviation en fait. Donc, en fait, SL c'est système d'échange local. Donc en fait, tu peux proposer des services. Par exemple, je ne sais pas si moi je sais faire la cuisine, je donne un cours de cuisine, je vais me faire payer 20 grammes de sel pour mon cours de cuisine.
Ok.
Par contre, je ne sais pas, monter une lampe chez moi, et puis un autre sait le faire, et il demande 80 grammes de sel pour le faire.
D'accord, ouais.
Donc en fait, c'est une monnaie interne à ce système d'échange local, où tu peux t'échanger des services, mais sans avoir de réciprocité. C'est pas parce que moi je t'ai rendu un service que toi tu dois m'en rendre un.
D'accord, ok, ok.
Ça permet de rencontrer des gens, de valoriser ce qu'on sait faire, de sortir de son isolement, etc. Par un système qui n'a pas besoin d'argent pour le faire. Et ça, souvent, les gens ont du mal à faire appel à ce genre de choses. Beaucoup de choses gratuites existent. Pardon ?
Ah, je ne savais pas que ça existe moi-même, cet échange.
Ouais. Ouais. Souvent, hein, les gens ne savent pas et ou ne vont pas chercher parce qu'ils n'en ont pas besoin. Enfin voilà. Il y a beaucoup de choses qui existent à Genève, mais souvent, les gens ne font pas appel.
Et ce système du sel, est-ce qu'il y a un site web pour ça ou c'est dans les.
Non, non, tu tapes sur Google Sel du Lac
et ouais.
Tu tomberas sur le site internet.
D'accord, ok.
Et il y a d'autres systèmes d'échange locaux dans différentes communes de la ville du canton de Genève. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, tu peux obtenir des cours de langue, parce que par exemple, il y a des cours de français, des cours d'allemand sur ce type de système d'échange. Des gens à la retraite parfois,
ouais.
Tu proposes des cours et du coup tu peux obtenir des cours de langue gratuits et aussi individuels. Parce que souvent la difficulté, là on arrive à un autre problème, c'est l'acquisition de la langue et la formation. L'acquisition du français pour certains c'est très compliqué. Ça peut coûter cher aussi,
ouais.
Quand on n'a pas les moyens. Donc ça c'est un bon moyen d'avoir quelque chose d'individualisé. Et gratuit.
Ouais, super.
Et souvent, les gens qui ont plus d'argent, parce que je vois, c'est qu'ils ont du mal à faire appel aux choses gratuites qui existent. Ils se disent, ah, mais je demande, puis c'est encore quelque chose qui s'apparente à de la charité, etc. Et souvent, les gens ont du mal à faire appel à des choses qui sont gratuites, qui leur rappellent la charité, qui leur rappellent encore cette situation-là.
D'accord.
Donc en fait, il y a du travail à faire avec eux de déculpabilisation de la situation dans laquelle ils sont.
Ouais,
avant
ouais.
Qu'ils puissent. Et ça, c'est une grosse étape difficile dans le parcours de certains migrants, je trouve. Encore que, ce qu'on voit chez les migrants, c'est qu'il y a une envie vraiment d'arriver et de se bouger pour y arriver.
Y arriver dans quel sens ? Je veux dire, les migrants, tu sens qu'ils ont envie d'y arriver, mais d'arriver à faire quoi ?
À s'insérer, à trouver du travail. Alors, eux, la plus grande, enfin, de ce que je vois, la plus grande envie, c'est trouver un logement, trouver un travail.
Ouais.
C'est ça, s'intégrer en Suisse.
Ouais, ok. Ouais, est-ce que tu sens aussi que, bon, parce que trouver un travail, on peut travailler par exemple entre Brésiliens, trouver un logement, on peut trouver un logement près de Brésiliens, et puis quand tu disais s'insérer, dans quel sens tu penses qu'ils veulent s'insérer aussi, en plus de trouver un travail et trouver un logement?
Alors, pour moi, l'insertion telle que les gens, les migrants, quand ils arrivent, ils la voient, c'est l'insertion économique.
Ouais. Ok.
On n'a pas, il n'y a pas une idée d'insertion sociale, spirituelle,
ouais.
De bien-être, etc. Ça, c'est des choses qu'ils ne voient pas. La principale qu'ils voient, c'est l'insertion économique. C'est entrer dans le système économique.
Ok.
En ayant un travail, donc pouvoir consommer, etc.
Ouais. Ouais.
Ce qui m'intéresse aussi, comment ça se passe pour, avec la scolarisation avec les enfants, s'il y a des difficultés. Parce que j'imagine il y a beaucoup de familles avec des enfants qui viennent et comment ça se passe? Il y a un service qui vient.
Alors, il y a selon l'âge des enfants, il y a le SKY, c'est une espèce d'école préparatoire. Ça se fait quand les enfants ils arrivent après la scolarité obligatoire, je crois.
Ouais, c'est juste.
Ils doivent faire un pont par rapport à l'apprentissage. Donc, du coup, ils ont comme des cours de mise à niveau avant de pouvoir intégrer un apprentissage comme ça. Mais sinon, les enfants ils sont intégrés comme n'importe quel enfant dans une école primaire, ou au cycle. Et puis, il y a, selon les écoles, des cours de soutien qui sont organisés. Et puis sinon, il y a aussi une association de répétiteurs qui viennent à domicile et qui, par exemple, en fonction de l'âge de l'enfant et du degré de scolarité, sont pris en charge par l'aide sociale, une ou deux heures par semaine.
Ouais. Est-ce que tu penses que quand les enfants vont à l'école, bon, je connais tout le parcours de l'école, parce que j'ai quatre gamins, donc ils ont tout, ils sont nés en Suisse, mais ils ont tout fait. Mais est-ce que tu penses que quand les enfants vont à l'école, il y a un changement dans la vie de la famille, dans le sens de un début d'intégration ou pas nécessairement, ou intégration sociale, je veux dire.
Alors, pas forcément, en fait, parce que ce qu'on veut voir, c'est qu'il y a des gens qui vont rencontrer facilement d'autres familles par le biais des enfants. Donc, du coup, effectivement, les enfants vont être un facilitateur de socialisation avec d'autres familles. Et au contraire, dans d'autres situations, ce n'est pas du tout le cas.
Par exemple.
Notamment dans le cadre de familles nombreuses, où ça reste le clan.
Ah! Okay.
Dans familial qui ne s'ouvre pas. Donc je dirais que ça, c'est au-delà du fait d'avoir ou non des enfants, c'est plus lié à un fonctionnement familial nucléaire ou ouvert.
Ok. Ouais.
Ça répond un peu à vos questions.
Ouais, ouais, ouais. Voilà, tout à fait. Ça, ouais. Ok. Et puis donc bon, les enfants, est-ce qu'il y a des migrants qui arrivent, donc des personnes qui arrivent, donc plutôt de la communauté européenne et qui ont plus de facilité pour avoir un permis. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas, par exemple, qu'il y a l'école, que l'école est obligatoire, qu'elle est publique, qu'elle est gratuite, etc. Ou est-ce qu'ils savent déjà quand ils arrivent, ils sont déjà informés dans ce sens?
Alors, j'ai eu assez peu d'informations à donner à ce niveau-là. J'ai l'impression que les gens ça va de soi qu'en Suisse, l'école est accessible. Donc, j'ai jamais eu de question sur est-ce qu'on doit payer l'école.
Ouais, ouais. Ok. Ok.
Mais je pense que ça, ouais, ils sont assez bien informés. Après, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà vu, il y a le Bureau d'intégration des étrangers qui offre un nombre important d'informations pour l'intégration des migrants, enfin n'importe qui à Genève en fait.
Ouais, ouais. Ouais, mais le BIE, il agit, si je ne me trompe pas, plutôt en parallèle, je ne sais pas, avec des associations ou avec des institutions, mais eux-mêmes n'ont pas de guichet pour recevoir les gens, c'est juste.
Non, je crois qu'il n'y a pas de guichet. Par contre, il y a tout un site internet, il y a un site internet avec des plaquettes, avec des informations sur les cours de langue pour les personnes migrantes. Par exemple, comment faire reconnaître son diplôme, voilà.
Ouais.
Il y a pas mal d'informations sur le site internet.
Alors, est-ce que, d'après ton expérience, les gens qui arrivent connaissent... Bon, parce qu'ils n'arrivent pas et le lendemain, ils ne sont pas au centre social. Donc, ils font des choses avant d'arriver au centre social. Donc, est-ce qu'ils... Quand ils arrivent, ils ont déjà des informations du BIE ou ils n'ont jamais entendu parler?
Alors, pas nécessairement du BIE, mais ils ont déjà entrepris d'explorer un certain nombre de choses. En général, un migrant qui arrive à Genève, il n'a pas juste pointé son doigt sur une carte et s'est dit je vais aller à Genève. En général, soit ils ont des amis, de la famille qui vont participer en fait à cette information.
Ouais.
Qui est, ma foi, parfois déformée, Donc, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens ont un certain nombre d'informations, mais qui sont déformées par les intermédiaires par lesquels ils ont eu.
D'accord.
Mais non, je n'ai pas trop l'impression que les gens sont passés par le bureau d'information de l'étranger.
Ouais.
Enfin, par le site, ou bien voilà. Ils sont passés par le biais d'associations, effectivement, en fonction de leur situation. Style, je ne sais pas moi, une femme qui arrive avec ses enfants, elle va avoir contact assez rapidement avec l'école. Je ne sais pas si elle a dû se barrer avec les enfants parce que le mari était violent. Elle a été soit dans un foyer, voilà. C'est souvent à ces moments-là où on y récupère.
Ok. Et puis, est-ce que tu pourrais... J'ai pas entendu.
Souvent, c'est les moments de crise dans une vie qui vont faire que la personne, elle doit aller chercher une formation ou changer finalement la routine dans laquelle elle était jusque-là. Et c'est souvent ça qui est moteur de changement.
Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire des exemples de crise?
Alors, je viens d'en donner une, la vie familiale qui éclate.
Exact.
La perte d'un travail.
Ouais.
Le non-renouvellement d'un permis.
Ouais.
La non-reconnaissance ou le manque de formation.
Ouais.
Un état de santé qui se dégrade.
Ouais.
La perte du logement.
Ouais.
Voilà.
C'est pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Rien qu'en autant, je note pas tout, hein, mais rien qu'en autant, il y a déjà six choses. Logement, ouais. Ok, ouais.
En fait, si le permis il n'est pas renouvelé, il n'a pas
le
bon choix, il n'a pas le droit d'être
sur le pays. Voilà, c'est soit tu quittes le pays, soit tu deviens clandestin, en fait.
Ouais.
La vie clandestine, c'est pas... Il faut rien faire, je sais pas.
Tu peux faire des choses, mais après, voilà, c'est toujours... c'est une vie sous tension, quoi.
Ouais. En tout cas, moi, j'ai des amis brésiliens qui sont au noir ici depuis 20 ans, depuis 15 ans, etc., qui ont plein d'employeurs. Il y en a qui sont au gris, hein, comme on dit, donc les employeurs payent l'AVS, etc., mais pour l'instant, ils sont toujours... Tant qu'ils ne se marient pas, pour résumer, ils sont au noir.
Voilà, bon. C'est ça.
Ouais. Alors voilà. Ce qui nous intéresse un peu, c'est aussi, par rapport à tout ce que tu as dit, c'est ces moments de crise. Parce que dans l'histoire du jeu, on a appris, parce qu'on a lu des textes, etc., qu'il y a ces moments tournants dans la vie de quelqu'un qui font que la personne change d'habitude ou change de vie, etc. Et puis, elle va déboucher sur une autre sortie. Donc, est-ce que tu pourrais parler un peu plus sur ces moments? Bon, la maman qui vient avec les enfants, ça, bon, on a vu, qu'elle passe par un foyer. Et puis, donc à ce moment-là, les assistants sociaux commencent à découvrir qu'elle a des problèmes et elle a besoin d'aide. Mais par exemple, la personne qui perd le permis, c'est comment de perdre un permis? Je veux dire, c'est seulement si le mariage ne marche pas, donc si elle a un divorce.
Non. Ça dépend, en fait, ça dépend de la raison pour laquelle tu as obtenu ton permis.
D'accord, ouais.
Alors, après, moi, je ne vais pas pouvoir te donner tous les critères, ça, il faudra... peut-être contacter l'OCPM
ou ouais.
L'association que je vous ai dit, c'est le CCSI.
C'est ouais, Centre de contact suisse immigré.
Ouais. Voilà. qui eux sont vraiment des spécialistes en termes d'accompagnement des personnes sans permis ou des personnes qui se voient leur permis refusé.
D'accord.
Nous, ce qu'on peut voir, c'est que si tu es à l'aide sociale depuis un moment, que tu n'as pas de travail, et selon de quel pays tu viens,
ouais.
Eh bien, c'est beaucoup plus facile de ne pas renouveler un permis.
Ouais, et ok.
Les gens reçoivent une décision avec un délai de départ.
Ouais.
Et puis, si. Après, il y a des décisions où, quand la personne fait recours juridiquement, il y a on appelle ça un effet suspensif.
Oui.
Donc, ça veut dire que le renvoi il est suspendu tant que le recours est engagé. Et il y en a d'autres où il n'y a pas d'effet suspensif. Donc, par exemple, nous, quand il y a un effet suspensif, on peut aider la personne tant qu'elle est pas, tant que l'affaire n'est pas réglée.
Oui.
Tandis que quand il n'y a pas d'effet suspensif,
oui.
Dès que la date à laquelle il devait partir est dépassée, on ne peut plus l'aider.
Ouais, ouais, ok, ok. Ouais, je vois. Je vois.
Donc il y a ça par rapport au terme. Mais sinon, il faudrait voir avec le système.
Et puis par rapport à. J'ai fait, en plus d'avoir travaillé au CAS de Châtelaine, j'ai fait pendant 8 ans des traductions pour, à l'époque ça s'appelait Unité Immigration et Suisse de Retour de l'étranger. Je ne sais pas si ça existe, ça existe encore.
Ça a été dissous l'année dernière.
Ouais. Et puis à cette époque, il y avait beaucoup de Brésiliens qui arrivaient en Suisse, donc Suisse de Retour de l'étranger, je veux dire. Des Suisses qui étaient nés au Brésil, qui ne parlaient pas un mot de français ni d'allemand, etc. Et puis, il y avait toute une histoire du style qu'il fallait expliquer aux gens, pas seulement dire « allez vous inscrire au chômage ». Bon, déjà, donc on disait ça, et puis le gars disait « mais j'ai pas travaillé, j'ai pas le droit de cotiser ». Donc, il y avait toute une information sociale qu'il fallait donner en disant « si, si, t'es Suisse, t'as le droit de t'inscrire, au moins pour faire les cours de français, etc. etc. » Donc, est-ce que l'Hospice Général a entre-temps a organisé du style une formation, pour les, pas une formation en soi, mais des informations organisées pour les gens qui arrivent ou pour les gens qui demandent de l'aide?
Alors, non. Normalement, en tant qu'assistant social, même si t'as pas, enfin, tu dois pouvoir donner ce genre d'informations à n'importe qui, parce que ce n'est pas uniquement lié. D'être suisse de retour de l'étranger, ce genre d'information. La difficulté principale pour un suisse de retour de l'étranger, c'est que le suisse, il a le droit de revenir en Suisse, quelles que soient les conditions. Et donc, s'il arrive et puis qu'il décide de s'installer à Genève, la question du logement se pose.
Ouais.
Prioritairement, c'est ça. Donc, où est-ce qu'on va loger ces gens? Et ensuite, effectivement, il y a tout. D'accord, par rapport au travail, l'exportation, cotisation chômage qui est en jeu. Mais ça, tu dois avoir connaissance de ça, quelle que soit la situation du migrant en fait. Parce qu'il y a des accords, etc. Et quand tu n'es pas sûr, tu lui demandes de faire la démarche et d'aller s'informer directement auprès de l'office de chômage.
Ouais.
Ça, c'est aussi. La position aussi du travailleur social par rapport aux gens en général, c'est vous êtes responsable de votre situation.
Ouais.
Vous êtes donc responsable d'aller chercher l'information dont vous avez besoin. On ne va pas tout vous servir sur un plateau. L'assistant social n'est pas là pour se substituer à vous dans ce genre de cas.
Ouais.
Ça, c'est toute l'évaluation qu'en tant que travailleur social, tu dois faire. C'est, quelles sont les possibilités de la personne d'aller s'informer par elle-même et puis quelle est la plus-value aussi pour elle de le faire.
Ouais.
Parce que tout ça, c'est aussi beaucoup plus valorisant pour la personne si elle le fait par elle-même et puis qu'elle vient ensuite t'expliquer qu'est-ce qu'elle doit faire, quelles sont les prochaines étapes, parce que ça reste la personne la meilleure spécialiste de sa situation.
Ouais. Ok. Et puis, est-ce que tu sens, d'après ton expérience, qu'il y avait... Comment est-ce qu'on dit, des choses qui arrivaient dans la vie des personnes ou dans le contact avec l'assistant social qui faisaient que la personne devenait plus autonome Parce que j'ai vu plusieurs rendez-vous où la personne venait, elle ne venait pas avec les documents, elle venait sans les documents. Et puis elle se faisait engueuler par l'AS parce qu'il n'y avait pas les documents, elle sortait sans le chèque, fâchée, etc. Donc est-ce qu'il y a, disons, un tournant qui fait que la personne pense « Ah, là maintenant je vais me rappeler de faire ça ou je vais faire ça ». Qu'est-ce qui fait que les gens deviennent plus autonomes, à part celles qui sont déjà, qui ont l'habitude du travail et qui sont déjà autonomes par leur expérience?
Alors, un fact, il n'y a pas, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, le fait de ne pas toucher de prestations financières et que cette prestation financière soit une carotte,
ouais.
Si je ne fais pas les choses, je ne l'obtiens pas,
ouais.
C'est un grand facteur de motivation pour certaines personnes.
Ouais.
Après, malgré ça, parce que des fois tu vas faire ça et la personne, malgré que tu lui mettes des bâtons dans les roues et que tu ne verses pas sa prestation, bah, elle ne va quand même pas faire les choses.
Ouais.
Et du coup, là, c'est à toi de te dire, attends, il y a quelque chose qui fait que la personne ne peut pas le faire et c'est autre chose. Donc, moi, je vois les gens qui deviennent plus autonomes, soit quand ils ont réglé, parce que souvent, ils ne le font pas parce qu'ils ont un gros problème psychique.
Okay.
Une grosse décompensation, des problèmes assez lourds à la maison aussi, une vie familiale qui est lourde. Donc à partir du moment où ces problèmes sont réglés, les gens sont l'esprit beaucoup plus disponible et ouvert à s'occuper d'eux, s'occuper de leurs affaires, établir des priorités, parce que avant ça ils étaient en mode un peu survie.
Ok, d'accord.
J'ai l'impression que quand les gens sortent du mode survie, que ce soit au niveau familial, au niveau de la santé, au niveau psychique, enfin voilà, j'ai l'impression que c'est là où ils font des petits pas, finalement.
Ouais. Est-ce qu'il y aurait un troisième facteur, encore d'obstacle pour l'autonomisation?
Des obstacles à l'autonomisation?
Ouais. En plus de, donc, bon... ça peut être manque de connaissances ou manque d'expérience, mais problème psychique, problème de vie familiale, est-ce qu'il y a d'autres...
Il y a aussi des limitations des gens qui sont très peu formés et qui arrivent dans un système complexe. Je pense à des gens, même les Suisses, hein, qui là, ils sont illettrés.
Ouais.
Donc ils sont alphabétisés, mais ils sont pas, ils sont illettrés. C'est-à-dire qu'ils ont pu suivre tout le cursus de formation complet et ils arrivent au bout en n'ayant pas acquis les bases. Et du coup, chaque démarche complexe est un obstacle pour eux. Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à repérer dans le suivi parce que souvent, ces gens-là, ils ont des stratégies d'évitement pour qu'on ne les repère pas.
Du style demander aux cousins ou à un ami de faire pour eux?
Par exemple, ou comme par hasard, quand tu dois remplir un document avec eux pendant le rendez-vous, ah, ils ont oublié leurs lunettes de vue, et puis de toute façon, toi, tu fais mieux qu'eux.
Ah, d'accord, ouais, ok.
Comme Philippe, il a raconté aussi, il y en a pas mal qui arrivent, qui ne savent pas lire, écrire, ou même compter. Oui, ils ont honte de dire ça, ils disent oui, ils disent pas oui, j'ai tout compris. Mais après, une fois qu'ils doivent faire tout ça, ils n'arrivent pas à faire parce qu'il a eu la honte à dire qu'il ne sait pas faire.
Oui, donc ça, il y a tout un gros travail de déculpabilisation des gens, qu'ils ont le droit de ne pas comprendre, de poser des questions, mais ils n'ont pas le droit de ne pas faire.
Ouais.
Ou ne pas dire qu'ils ne savent pas. Moi, c'est quelque chose que je leur dis toujours. Vous avez le droit de me poser des questions et de me dire la même question, mais vous n'avez pas le droit de me dire oui si ce n'est pas le cas.
Ouais, ok.
Et pour vous, en tant qu'assistant social, s'il y a des problèmes, des difficultés au travail, en travaillant avec les migrants?
J'ai pas compris.
S'il y a quelque chose qui vous pose des difficultés au travail avec les migrants, si vous avez.
Ah. Ce qui pose beaucoup de problèmes avec les migrants, la première chose c'est la langue, c'est que c'est des entretiens qui durent longtemps et qui demandent d'utiliser des termes et de simplifier le système au maximum dans les explications qu'on donne. Ça c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, ça va être les problèmes de culture, notamment par rapport au travail lorsque tu as affaire à un couple et il n'y a que monsieur qui cherche du travail et madame est destinée à s'occuper des enfants et dès que l'enfant devient un peu plus grand, hop, on en met un autre en route. Donc ça, c'est difficile à un couple de faire comprendre qu'en fait, vous êtes tous les deux capables d'aller chercher du travail, vous devez tous les deux y aller. Et souvent, il y a pas mal de stratégies d'évitement du style de faire des gamins à la suite. Je pense que c'en est une. Parfois, pas toujours. Des fois, c'est voulu, il doit une famille nombreuse, voilà. Mais des fois, ça peut être une stratégie d'évitement. Ou bien madame ne va jamais se rendre disponible, par exemple, pour les cours de français. Ou j'ai vu l'inverse aussi, où c'est madame qui porte tout, les enfants qui portent tout, et monsieur qui est sous certificat médical, qui ne peut rien faire, enfin qui normalement ne pourrait rien faire, mais en fait il a beaucoup de capacités. Enfin, voilà. Ça c'est assez difficile culturellement, parce qu'en plus c'était une culture où normalement c'est l'homme qui porte tout. Donc lui, sa stratégie de défense, c'était « je suis malade, donc c'est pas de ma faute ».
Ouais, ok. Ouais. Alors...
Ça peut être un problème. Qu'est-ce qui pose du problème ? Vraiment, l'accès à la langue, c'est vraiment un très très gros problème pour selon l'âge auquel les gens arrivent aussi. C'est pas évident d'arriver à un certain âge et de devoir apprendre une nouvelle langue, un nouveau fonctionnement, etc.
Est-ce que les gens, comme au départ, on avait parlé, tu avais dit que ce que les personnes veulent en priorité, c'est avoir un travail et un logement, disons, voilà. Comme ça, la plupart. Et puis, est-ce que la langue, apprendre la langue, ça fait partie...
Avoir un travail et consommer.
Et consommer, oui, j'ai noté ça.
Les gens veulent ça, même avant un appartement, ils veulent pouvoir consommer.
Ouais. Et puis, par rapport à la langue, est-ce que tu sens, si tu mettais ça dans, comme font les ambulanciers quand ils demandent, vous avez mal de 0 à 10, c'est combien la douleur, etc. Donc, l'envie d'apprendre la langue pour ceux qui ne parlent pas la langue, bon, je sais que les personnes sont différentes, mais en moyenne, entre 0 et 10, ça arriverait à combien?
Là, ça va vraiment dépendre du parcours migratoire. Alors, je trouve que les personnes qui viennent par le biais de l'asile sont beaucoup, et surtout les jeunes, sont beaucoup plus motivés et ont plus de facilité à le faire. Encore que tu trouves quand même des gens qui, ben voilà, la Suisse doit, un petit peu leur credo, la Suisse doit. Mais je trouve qu'ils sont généralement plus motivés à le faire, donc eux je dirais entre 8 et 9.
D'accord, chouette. Ouais.
Et puis les autres, je dirais plus 6, tu vois.
D'accord.
Donc je ferais une moyenne à 7.
D'accord, ouais.
Voilà, 6, 7, la motivation à apprendre la langue.
Ouais. Alors là.
Parce
là...
que ça fait sens pour eux de l'apprendre. Après, c'est toute la difficulté que ça implique qui est plus compliquée.
Ouais. Et puis, on a interviewé, moi et Ludmilla, un gars, Philippe, il s'appelle comment déjà le nom de famille? Il avait un nom compliqué. Mais bon.
Ménarier.
Ouais, il est chef du service santé migrant de HUG, c'est ça, hein? Ouais. Donc il a parlé un peu et puis il a, actuellement, il travaille avec des gens qui ont le permis de séjour, mais pendant un temps il travaillait avec des gens sans permis et puis il a dit que les personnes voulaient, un peu comme toi, ils voulaient en principe avoir un logement, avoir un travail, Mais pas nécessairement la langue. Donc la langue, il ne voyait pas la langue comme un objectif pour travailler. Et puis finalement, ce qu'il a raconté, c'est que même dans des associations, vu que pour certains, pour des réfugiés par exemple, ils ne pouvaient pas travailler tout de suite, mais ils pouvaient aller contribuer dans des associations comme bénévoles. Et même dans les associations, on demande un niveau minimal en français pour qu'ils puissent se communiquer avec les gens. Donc il y avait ça, il a mentionné aussi des besoins, pas de besoins en soi, mais l'envie que les gens avaient d'avoir des activités du style faire du sport ou loisirs, etc. Est-ce que tu ressens ça aussi dans ton public?
Alors, oui, on ressent la même chose dans notre public, dans le sens où j'ai l'impression que les gens, pour revenir juste pour finir par rapport au français,
ouais.
Par rapport à la langue, c'est juste que peut-être les gens, on a l'impression qu'ils ne sont pas motivés à apprendre la langue parce que le seul truc qu'ils voient, c'est les cours de français, les cours dans une salle avec un prof.
D'accord.
Mais ce que les gens ont du mal à développer, c'est les autres moyens d'acquérir la langue.
D'accord, ouais.
C'est-à-dire, justement, d'avoir des activités de bien-être, sportives, de loisirs, etc., où ils vont rencontrer des gens, où ils vont être obligés de parler en français.
Ouais.
Où ils vont être obligés de se mélanger, de socialiser. Je pense que c'est plus ça le frein des personnes actuellement, c'est la peur d'aller vers l'autre et qui va me permettre au final d'en tirer quelque chose pour moi, notamment par rapport à la langue, mais par rapport à d'autres choses, qui constitue ce frein-là, et pas réellement un manque d'envie d'apprendre la langue. C'est plus une difficulté à avoir toutes les possibilités à travers laquelle je vais apprendre une langue.
D'accord. Parce qu'en fait, finalement, les écoles, pour ce public, en tout cas pour la plupart des gens de ce public, les écoles ne sont pas les endroits les plus alléchants ou les plus attirants, parce qu'éventuellement, ils n'ont déjà pas beaucoup de scolarité de chez eux.
Selon les associations, par exemple, il y a l'association Lire et Écrire,
ouais,
qui tient compte justement du peu d'alphabétisation, d'illettrisme. Mais la plupart, c'est des cours ex cathedra, un prof avec des élèves. Et puis voilà, c'est pas pour critiquer. Hein,
ouais, ouais, ouais.
Ça ne correspond pas à tout le monde.
D'accord, ouais, ouais, ok. C'est intéressant.
Au départ, il y a la nécessité aussi des fois de développer quelque chose d'individuel pour développer la langue.
Ouais.
Donc, d'où les solutions de rencontrer des gens, enfin voilà, de socialiser. Et dans l'envie, pour répondre à ta question, dans l'envie des gens d'avoir des activités, oui. À partir du moment où ils ne sont pas dans une phase, je dirais, dépressive, sans poser de diagnostic, hein, mais
ouais, ouais.
Une phase où ils sont en train de décompenser, et ils sont plus en train de s'isoler qu'à chercher à avoir des contacts.
D'accord.
Et puis, c'est aussi des choses, des fois, dont les gens parlent volontiers pour leurs enfants, hein, de trouver des activités pour leurs enfants, mais
d'accord,
de trouver des activités. Pour eux, ils ont souvent du mal à dire oui, ben non, j'ai pas le temps en fait.
D'accord, d'accord.
Alors que nous on est en train de leur dire bah oui, en fait vous avez beaucoup de temps.
Ouais, ouais.
Mais, et du coup, enfin moi j'ai fait souvent l'exercice, c'est de demander à une personne qui me disait mais j'ai pas de temps de me faire une grille avec les jours de la semaine et de me détailler toutes les activités qu'elle a dans sa semaine.
Uh-huh.
Et ça m'a permis de découvrir plein de choses. Par exemple, avec maman seule au foyer qui culpabilisait beaucoup de prendre du temps pour elle, eh bien, elle me disait j'aimerais bien recommencer à faire du badminton, mais je ne sais pas quand le faire.
Uh-huh.
J'arrive pas à trouver le temps. Donc je lui ai fait faire cet exercice et on a réussi à combiner des activités qu'elle faisait séparément dans une même demi-journée ou dans une même journée pour lui dégager une demi-journée.
D'accord.
Pour elle. Et puis, dans une autre situation, un monsieur qui ne me parlait pas de ses problèmes de dépendance, mais j'avais une grosse suspicion,
ouais.
Il me mettait tous les matins faire les courses pendant 4 heures.
Ouais.
Et puis, je lui fais, mais vous faites les courses pendant 4 heures, je comprends pas, qu'est-ce que vous faites pendant tout ce temps-là? Alors que je savais très bien ce qu'il voulait dire. Puis il me fait, ouais, mais enfin, vous savez très bien. Puis je fais, ouais, je crois que je sais, mais je préfère que vous me le disiez.
Ouais.
Voilà. Après, dans cette approche-là, tu peux ouvrir plein de portes. Souvent, les gens, en ayant le nez dedans, ils n'ont pas cette vision. Et du coup, il faut les aider à s'extraire de leur vision dans le guidon, en fait.
Ouais.
Souvent, quand les gens, on a l'impression qu'ils ne sont pas motivés à apprendre une langue et tout, il y a souvent d'autres choses derrière qui font qu'ils n'y arrivent pas.
Ouais, ok. C'est pas mal ça. Et puis, donc là, on arrive déjà presque à une heure. Donc, comme je t'avais promis qu'on allait faire un entretien de une heure, je pense qu'on ne va pas faire plus. Mais j'aimerais juste arriver à ce que tu nous parles des situations qui se sont développées positivement ou négativement. Mais du style, c'est quoi pour un client de l'aide sociale se développer positivement et c'est quoi se développer négativement?
Alors, se développer positivement, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Après, ça dépend, et comme par rapport à tout à l'heure, ce que tu disais par rapport à l'autonomie, qu'est-ce
ouais.
qu'on met derrière l'autonomie? J'ai appris en étant à l'aide sociale à mettre des degrés plus bas d'autonomie que ce qu'on se mettrait à soi-même ou à ses proches comme objectif. Donc par exemple, j'ai un monsieur qui, quand j'ai repris son dossier, quand j'ai commencé à travailler à l'Office général, ça faisait 7 ans qu'il était à l'hôtel et en recherche de logement.
Ok.
En sachant que c'est très difficile pour un homme célibataire de trouver un logement, etc.
Ok.
Du coup, j'ai pris l'occasion de... Ça peut paraître hyper trash, hein, ce que j'ai fait par rapport à... vu de l'extérieur. C'était au mois d'avril et il s'est fait foutre dehors de son hôtel parce que la propriétaire de l'hôtel l'a accusé de faire du deal.
D'accord.
Et une des conditions à l'Office général pour être à l'hôtel, c'est de faire une recherche de logement active.
Oui.
Et ce monsieur ne me présentait pas une recherche de logement active à cette période-là. Donc, du coup, j'ai dit à mon chef, on va arrêter de lui payer l'hôtel. Il va se débrouiller pour aller vivre là où il peut.
Oui.
Il commence à faire beau.
Oui.
Il ira au pire au camping,
ouais.
Et puis on payera la place de camping, et puis avec les frais besoins exceptionnels, je lui ai acheté je lui ai fait acheter une tente.
Ouais.
Voilà. Et ce monsieur a passé tout son printemps et son été au camping. Du coup, il était beaucoup plus motivé à chercher un logement. Donc voilà. Donc, au mois de mi-septembre, début octobre, je ne sais plus, il a trouvé une chambre à 400 francs au-dessus d'un hôtel-restaurant.
Eh ben.
Mais typiquement avec lui, ce qui a, je pense, marché, c'est de lui mettre des limites très très claires et très très fermes. Parce qu'il est revenu à plusieurs reprises avec des demandes de logement à l'hôtel et je lui ai dit que c'était exclu et que la décision ne venait pas de moi, etc. Donc tout ça pour rester dans une relation de confiance avec lui, parce qu'il était beaucoup aussi dans la séduction de « vous allez être content, ah j'ai fait ceci », voilà, comme si finalement il optait pour moi.
Ouais, ouais, ouais.
Et du coup, voilà, après 7 ans, en fait, la progression, c'était d'avoir trouvé un logement temporaire, une chambre au-dessus d'un hôtel-restaurant à 400 francs par mois.
Ouais. Alors, est-ce que tu as senti qu'il était lui-même fier de ce qu'il avait fait ou pour lui, c'était juste le soulagement de ne plus être sous tente?
exprimait, il n'a pas beaucoup exprimé de satisfaction par rapport à ce que ça lui a demandé. Il a surtout exprimé de la satisfaction par rapport au fait d'avoir une situation plus stable.
Ok.
Et puis, une autre situation à laquelle je pense aussi, c'est un monsieur qui a été... Je venais de commencer là aussi. Et il a été transféré chez moi parce qu'il avait déménagé. Donc il avait trouvé un logement. Et ce monsieur, après un très long parcours de toxicodépendance, il était sous méthadone.
Ouais.
Donc il était stabilisé. Par contre, il avait des épisodes dépressifs assez prononcés pendant le suivi. Et c'est un monsieur qui était très angoissé par le fait de changer d'assistant social, à qui il allait avoir affaire, etc. Donc c'est quelqu'un d'hypersensible pour tout dans sa vie, et y compris le suivi avec son assistant social. Et ce monsieur avait, de par sa toxicodépendance, il avait été incarcéré, donc il avait plein de choses par rapport à ses enfants où il n'avait pas pu suivre au niveau du jugement de divorce. Donc du coup, il y avait une pension alimentaire qui avait été fixée sans qu'il soit là et qu'il culpabilisait de ne pas pouvoir la verser. Il n'avait plus de contact avec son fils, il gérait très mal administrativement. Et du coup, on a fait tout un projet autour de reprendre confiance en lui par différents biais. Un des biais, c'était de pouvoir dire à son fils qu'il avait envie de lui dire sans forcément attendre de son fils qu'il lui réponde.
Mm-hmm.
Donc on a exploré avec lui quelle était la meilleure façon pour lui de dire des choses à son fils sans qu'il mette la pression à son fils pour le revoir. Parce que lui, dans l'idéal, c'est qu'il voulait rétablir un lien avec son fils, de le revoir. Et puis du coup, il en est arrivé à accepter que peut-être son fils, pour l'instant, n'était pas prêt à ça, mais lui, qu'est-ce qu'il était prêt à faire pour lui? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait dire à son fils, qu'est-ce qu'il avait besoin de lui expliquer, comment il voulait le faire, etc. Donc du coup, il a écrit plusieurs lettres à son fils pour lui expliquer ce qu'il ressentait, comment il avait vécu le fait de le voir, ce qu'il vivait actuellement, etc. Et par un autre côté, on a aussi pris la situation administrative. Monsieur, quand il venait, justement, tu me disais, ils arrivent avec rien, tout est en bordel, ils te donnent plusieurs fois les mêmes choses. Voilà. Et du coup, on avait fait un tri dans ses affaires, et thématique par thématique. Donc, mois après mois, il choisissait lui quelle thématique voulait arranger et comment il voulait l'arranger. Est-ce qu'il voulait ranger les choses par année? Est-ce qu'il voulait ranger les choses par thématique? Quelle thématique il allait mettre ensemble dans le même classeur? Ou est-ce qu'il allait faire un classeur par thématique? Voilà. Est-ce qu'il allait utiliser des classeurs ou autre chose? Et du coup, donc il a fait tout ce travail-là, et puis à chaque fois, je lui demandais: expliquez-moi quel est le sens pour vous quand vous allez devoir retrouver, par exemple, je ne sais pas, vous devez retrouver un document par rapport à l'ABS, à quoi vous allez penser pour le retrouver? Et puis du coup, c'est ça qui lui permettait de faire le choix de ranger avec ça ou avec ça. Puis après, lui, il me disait toujours, mais vous, vous feriez comment? Puis je lui disais, mais moi, je ferais d'une certaine façon par rapport à ma logique. Ce qui importe, c'est votre logique. Donc le fait de rester toujours dans le besoin de l'autre, ça a permis qu'il organise des choses à la maison. Et après, il était tout fier de venir au rendez-vous. Il avait acheté un porte-document en accordéon.
Ouais, je vois. Ouais. Avec les petits onglets comme ça. C'est un qui fait comme ça et qui a des petits onglets où on met janvier, février, mars ou ce qu'on veut.
Et puis il était tout fier de venir avec son porte-documents, de me donner ses documents et d'avoir toujours tous les documents dont j'avais besoin. Et puis après, il me disait, voilà, ça, après, je vais le ranger là. Enfin, il m'expliquait comment il fonctionnait à la maison pour pouvoir retrouver les choses si jamais lui, il en avait besoin pour une démarche, etc.
Ouais, c'est chouette. Trop bien.
Donc, tu vois, les progressions, elles sont vraiment très basiques. Mais ouais. S'il n'y a pas les basiques, les gens ne sont pas capables de passer à autre chose, quoi.
Ouais. Ouais. Et puis des cas de problèmes qui ne s'est pas résolu, etc.
Alors, il y en a plein aussi.
Ouais.
Il y a des choses qui se sont péjorées. Bah, par exemple, il y a eu un monsieur qui a eu un AVC. Ouais. Et qui donc a vu sa situation, c'était un monsieur qui était chef d'entreprise, voilà, qui avait beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de responsabilités. Il avait 61 ans quand ça lui est arrivé. Quand moi je le suivais, il avait 63 ans, donc très proche de la retraite. Et il perdait la mémoire. Il n'arrivait plus à gérer ses affaires, il avait son ex-femme qui l'aidait un coup, mais quand son ex-femme ne pouvait pas l'aider, il était très angoissé, très culpabilisé à lui de me demander à moi de l'aider à le faire. C'est quelqu'un qui a toujours pu gérer lui-même ses affaires. Donc c'était assez triste parce qu'en fait, il perdait complètement le contrôle de sa vie du fait de la dégradation de sa santé. Donc ça, c'était une situation, par exemple, qui a été s'empirant, même si le monsieur, il arrivait à se maintenir de par, justement, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est finalement tous les gens qu'il avait autour de lui. Mm-hmm. Donc, moi, de manière générale, que le fait de tomber, d'être à l'aide sociale, de perdre son travail, ça isole beaucoup les gens. Et ils ont beaucoup de mal à maintenir des liens autrement qu'à travers des activités économiques.
Ouais, ça fait. Ouais. Encore un autre exemple. Le dernier.
Un autre exemple. J'ai eu une situation d'une jeune femme qui avait 22 ans. Son parcours à elle, c'était qu'elle a été adoptée. Donc elle a vécu déjà un abandon. Sa famille d'adoption, ça ne s'est pas très bien passé avec elle. Elle n'avait pas de formation. Et elle a trouvé un travail. Elle a trouvé un travail en extra pendant les fêtes de Noël, où elle gagnait jusqu'à 4500 francs par mois, enfin, c'était vraiment beaucoup plus que ce qu'elle avait à l'aide sociale, donc elle n'était plus aidée pendant les 3 mois où elle a travaillé en extra comme ça. Et ensuite, elle est revenue à l'aide sociale et elle n'avait pas payé un mois et demi de logement, 3 mois l'assurance maladie qu'elle n'avait pas payé, et en plus, elle était enceinte.
Ah mon Dieu! J'imagine la cata.
Et elle n'a pas de formation ni rien. Et premier coup, elle décide de se faire avorter. Et le mois suivant, elle revient et elle me dit, je suis de nouveau enceinte. Uh-huh. Et cette fois, je ne me vois pas avorter et je veux le garder parce que, enfin voilà, par rapport à son histoire à elle, trop difficile de se faire avorter alors qu'elle-même elle avait été adoptée, etc. Elle voulait donner une chance à cet enfant, pas petit peu là. Donc voilà, c'est une jeune femme qui au final reste hyper fragile, qui n'a pas réussi à mettre ses priorités. Alors dans un sens, elle a réussi à faire des choix pour elle, c'est-à-dire d'avoir cet enfant, l'élever, etc., de vouloir lui donner des parents. reste encore que le monsieur avec qui elle l'a eu, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, de lui donner une maman et puis de pouvoir l'aider elle-même. Mais par contre, par rapport à elle, et puis construire des bases solides, elle n'a pas réussi à faire des choix alors qu'elle avait déjà 25 ans, à ce moment-là 26 ans. Elle n'a pas, réussi à mettre en place des choses qui lui ont permis de faire des choix pour elle de construction sur l'avenir.
Ouais, super.
Voilà.
Alors. Ludmila, est-ce que tu...
Je suis impressionnée par toute cette histoire. Moi, j'imagine ça. Là, c'est intéressant, mais après, ça... ouais, c'est la question d'habitude. Je trouve que c'est un peu difficile. Mais du côté des histoires comme ça, moi, je suis très, très sensible. Et si quelqu'un vraiment me dit quelque chose comme ça, je me mets dans la peau de cette personne. Et... Ouais. J'imagine
ouais.
Que vous avez beaucoup d'expérience avec les gens.
Ouais. Ben, ça aide, mais après, c'est clair qu'il faut. Voilà, de se mettre trop à la place des gens, ça ne les aide pas du tout. Donc, ils doivent rester les principaux acteurs et puis en pleine possession de leur situation s'ils veulent pouvoir avancer. Donc, c'est ça aussi qui fait que je. M'entraîne moi,
ouais.
C'est pas parce que je suis pas...
Chaque personne qui vient avec, avec son histoire individuelle, chacun sa situation.
Et tout ça. Et puis c'est ça qui est hyper important à respecter en fait. C'est de respecter l'individu dans un système qui veut faire rentrer les individus dans des cases.
Ouais. Alors, par rapport à ces petites histoires que tu as racontées, Julio, est-ce que tu dirais que ce que tu as raconté, c'est pareil pour les Suisses et pour les étrangers, ou que c'est plutôt une chose... Tu vois des différences de traitement entre les Suisses et les étrangers, ou c'est plus ou moins la même chose? Que ce soit pour un cas positif ou négatif.
Les différences de traitement, non, parce que non. Je pense que ça peut concerner autant les uns que les autres. Quand tu dis, est-ce qu'il y a des différences de traitement, des différences...
Ouais, pas de traitement, en fait. Par exemple, tu nous as raconté deux histoires qui finissaient bien, deux histoires qui finissaient moins bien, et puis... ces histoires, tu pourrais dire que l'une de ces histoires, c'est typique d'un étranger ou c'est typique d'un Suisse ou bien tout se mélange
Non, ça peut vraiment concerner tout le monde. Personne, c'est pas le fait d'être étranger ou Suisse qui va te prémunir ou bien qui va favoriser le fait que tu sois dans une situation ou dans une autre. Je pense que c'est... les multiples facteurs qui font que la situation va mieux ou moins bien. Mais c'est pas... On peut se dire peut-être que l'étranger va plus avoir de probabilité d'être isolé dans sa situation et donc d'obtenir moins de soutien de son entourage, alors qu'un Suisse ou bien quelqu'un qui a toujours vécu à Genève, il aura peut-être... Mais encore que, comme je te disais...
Ouais.
Il y a des gens qui s'isolent, donc même s'ils ont eu toute leur vie ici, ça reste des personnes assez isolées.
Ouais, ouais, ok. Alors pour moi, donc on pourrait rester jusqu'à minuit hein, en train de parler, mais on va te libérer. C'est déjà pas mal que le 2 de l'an, tu passes une heure avec nous. Alors Ludmila, encore une question ou...
Non, j'ai pas de question.
Ouais.
Oui, c'était très intéressant. On a plein d'informations maintenant avec toi. On peut construire notre scénario, proposer notre candidat. C'est un grand projet européen.
Ok.
Ouais.
Faciliter l'intégration de la vie sociale, de la vie des quartiers.
Donc, ce qu'on va faire pour toi, c'est que quand le jeu sera prêt, Donc, on va sûrement interviewer d'autres personnes qui travaillent dans le milieu social de Genève aussi. Mais quand il sera prêt, on t'enverra par, je sais pas, une manière pour que tu puisses voir le résultat.
Ok, bah, ça serait sympa, ouais.
Ouais, mais c'est, voilà. Donc, on va t'épargner la partie écrite du travail où il y aura 48 pages. Ça, tu ne seras pas obligé de lire. Hein. Ça sera que le jeu, avec l'ordinateur, là, ou avec la tablette.
Il y aura juste à cliquer, c'est ça?
Ouais, exactement. À cliquer, ouais. Ok. Bon, merci beaucoup.
Okay, en tout cas, merci à vous. Et puis, ben, bon courage pour ce travail.
Merci. Ouais,
c'est
ouais.
Très gentil. Vous avez consacré une heure pour répondre à la question.
Ouais.
Ben, très volontiers. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou quelque chose. Je répondrai volontiers.
Ouais, volontiers. Merci beaucoup, Giulio. Bonne année,
ciao.
Et puis à bientôt. Ouais. Alors, Ludmila, bonne tu année. Restes là. Tu restes là, Ludmila, comme ça on ouais, discute un peu. Ouais. Ciao, Giulio, t'es ciao. Libéré. Merci.
Ciao.
Ciao. Alors, comment t'as trouvé
là. On a plein d'informations maintenant.
Ouais.
C'est bien, il a beaucoup raconté. Il était quelqu'un vraiment.
Ouais.
Qui parlait beaucoup. Une question, après
il
répondait 10 minutes à une question.
Ouais. C'est comme l'entretien phénoménologique, là, où on pose une question, puis on laisse la personne parler. J'ai trouvé que c'était très bien. Et puis, effectivement, ouais, il fallait poser des questions plus générales pour qu'il puisse raconter les fameuses histoires des personnes, etc. Parce que quand au début j'ai dit ah, est-ce que tu peux nous raconter une histoire, et puis il savait pas quoi raconter, et puis à la fin il a raconté plein d'histoires. Ouais.
Très utile, je pense. Il a raconté plein. Moi j'ai pas écrit beaucoup, mais quelques ça j'ai noté quelque chose. Il y a pas mal de choses intéressantes, je trouve. Il a parlé des problèmes qui des fois tournants qui causent pourquoi la personne va chercher les informations, et après avec toutes ces histoires. Et je sais pas comment on fait pour tout ça résumer ou pour présenter à Christina, on raconte ou comment on fait un document.
Alors moi je peux faire le résumé. J'ai noté plein de choses. Bon, en principe, je ne sais pas si ça a marché. Hein. C'est mon attel, là, il était à côté. Je ne sais pas. D'ailleurs, je vais l'arrêter. Ouais, d'accord, j'arrête.